Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Après-midi, le téléphone sonne dans la chambre de Julien. Il a décroché.
Oui ? Bonjour monsieur, je suis le médecin de l'hôpital où votre ami se trouve. J'aimerais vous parler. Pouvez-vous venir à l'hôpital ? Julien lui dit. Oui, bien sûr. Je viendrai de suite. Bien, je vous attends. Demandez à l'accueil le docteur Marnien. Bien, j'arrive.
Il décroche. Ta chambre.
Arrivé à l'hôpital, il va à l'accueil, il demande le docteur Marnien. L'hôtesse lui dit,
premier étage à droite, en sortant de l'ascenseur.
Merci. Et il y va.
À prendre l'ascenseur. Jusqu'au premier étage. Et là, suit un couloir de porte avec des noms dessus. Il trouve le nom de la porte du Tormana, Maria. Frappe, entrée, il entre. Petit bureau, genre hôpital, meuble métal gris. Le médecin est à son bureau. Il se soulève et dit. Bonjour monsieur Sev, venez vous asseoir. Bonjour monsieur. Julien va s'asseoir en face du bureau. Le médecin lui dit, voilà, je vous ai fait venir, c'est que lorsque nous avons examiné Marie, nous sommes très vite aperçus qu'elle était enceinte de quelques semaines. Nous sommes dit tout d'abord qu'il ne fallait rien vous dire pour éviter une peine supplémentaire. Puis nous avons réfléchi et pensé que ce serait bien
que vous le sachiez. Julien est surpris, ne sait quoi dire. Le médecin lui dit, bien entendu, l'enfant n'est plus. Mais il reste, sûrement son ADN. Nous avons mis Marie en conservation congelée. Si vous voulez vraiment savoir si vous êtes le père, on peut vous faire un test. Julien lui dit, oui. On lui fait une prise de sang. On compare le sang de Julien et son ADN avec celui du fœtus qui est toujours à l'intérieur de Marie. Le père. Puis Julien dit au médecin, je sais, c'est qu'une clinique fait des recherches sur l'ADN et la survie. Je vais voir si on ne peut pas récupérer l'enfant. Le médecin lui dit, le fœtus est pour ainsi dire mort. Julien court chez Gilbert. Il le retrouve à son salon. Gilbert est surpris. Il lui demande, que se passe-t-il ? Il raconte tout et lui dit, je veux, c'est récupérer l'enfant de Marie. Gilbert lui dit, mais c'est impossible, il est mort. Julien lui dit, ta clinique a bien fait des choses encore plus difficiles. Et puis, Marie a été brûlée, mais le fœtus a été protégé dans le corps de Marie. On peut essayer. Il dit, bien, allons à la clinique, je ne tourne qu'un et nous verrons bien. Julien lui dit, allons-y tout de suite. Et ils y vont. Le directeur de la clinique les reçoit parce que Gilbert est avec lui. Julien a tout dit. Il dit, nous pouvons essayer, mais c'est pas sûr que ça prenne. Vous allez m'amener la personne et nous verrons. Julien va à l'hôpital demander le cadavre de Marie. La clinique lui a prêté un camion frigorifique. Le médecin le lui rend et lui demande « Qu'est-ce que vous allez en faire ?» Julien lui dit « Essayez de faire naître l'enfant. » Le médecin ouvre ses épaules et lui dit « C'est impossible. Vous êtes allé chez des charlatans. » Le corps de Marie est mené chez Jeune Touriquin, qui on le transporte dans une chambre froide en attendant. Le directeur dit à Julien, on ne rien faire sans l'autorisation de la famille, en a-t-elle une ? Julien lui dit, je crois une mère, eh bien, allez la voir et demandez-lui. Julien lui dit, je ne sais pas où elle est. Téléphoner au centre de la population. Ils peuvent avoir son adresse. Ce n'est pas SDF. Julien téléphone au centre de la population qui a un ordinateur branché sur toutes les mairies et qui peut leur donner le nom et l'adresse de leurs concitoyens. On leur trouve difficilement parce qu'ils n'avaient pas le prénom. Mais il lui a dit qu'elle avait une fille du nom de Marie et ils l'ont trouvée. Vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas prévenu la mort de sa fille à la mère. Par ce système, on doit en faire pour demander
Ça ne se fait pas automatiquement. La mère habite en Bretagne, dans un petit village. Téléphone à la mairie pour prévenir du décès de la fille Brité et demande s'il peut l'avoir au téléphone. La mairie lui dit qu'elle n'a pas de téléphone. Il décide d'aller la voir, ce sera plus simple, pour lui demander l'autorisation. Il lui dit, je vais voir la mère de Marie pour l'autorisation. Sylvia lui dit, fais attention, tu vas mettre les pieds. Et il est parti. Il a pris un train . Le trajet est long et pénible. Puis, il est sorti de la gare. Il faut qu'il prenne un car pour faire 70 km pour aller au village. Il a eu de la chance parce qu'il n'y a qu'un car par semaine. Le trajet est très pénible et long. C'est un vieux car sans confort et qui doit s'arrêter à tous les villages pour porter le courrier. Pour faire 70 km, il met 3 heures. Enfin, Julia arrive. Il a mis 3 heures pour arriver de la gare jusqu'au petit village. Petit village du Bub, avec sa place du village. De nuit, c'est triste. Avec sa petite église, sa mairie. Son épicerie café. Il décide, c'est d'aller à l'épicerie café pour se renseigner. Petit café, sombre et sale. Il entre, c'est enfumé, ça sent le vin. Il y a des vieux à table qui boivent ou qui discutent, qui jouent aux cartes. Une femme, vieille femme, toute maigre, cheveux blancs à chignon, habillée d'une blouse noire, est au comptoir. Il y va. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. On dirait qu'il voit un martien. Il est vrai que Julien a l'air d'être entré dans un film des années 30. Il dit à la femme qui est au comptoir, un verre de rouge s'il vous plaît. Elle le sert sans rien dire.
Oh, ne m'en parle pas, hein.
N'aime
de
pas le vin, mais ici,
même pas de quoi faire la
il ne doit rien avoir d'autre. Et puis un homme qui demande un jus de fruits, ça paraît bizarre. Après avoir bu cette chose, il demande « Vous savez où habite Madame Brittet ?» La femme le regarde d'un drôle d'air. Tout le monde se tourne. Elle dit « Qu'est-ce que vous voulez à la Brittet ?» Julien lui dit « Lui parler ?» La vieille lui dit « C'est bien la première fois qu'on veut lui parler à la Brittet. » Julien lui dit « Oui, mais moi ?» La femme lui dit « C'est qu'elle n'est pas causante la Brittet. Et des visiteurs ont autre chose à faire qu'à causer. » Le vieux rigole. Julien comprend et lui dit « Écoutez, je ne suis pas venu de Paris pour discuter, pour savoir si oui ou non elle parle la Brittet, ce qu'elle fait. Si vous ne voulez pas me dire où elle habite, je verrai ailleurs. » La vieille lui dit « Elle habite au bout du village, la maison qui est à côté de la croix, du carrefour. Vous sortez du café, vous suivez la route à droite, c'est à 10 minutes. Mais la nuit est là. » Julien lui dit « Merci. » Il paye et il sort. Il est vrai que la nuit tombe sérieusement. Prend la route à droite et la suit. Petite route de départementale. Le vent se lève et il fait froid. Qu'il avance, les maisons se font rares. Il y a des prés à perte de vue, avec de l'herbe folle et des cailloux. Bruit de la mer. Il passe en voyant de loin le cimetière. Il y a une croix, pierre. Elle est en plein dans un champ. Il y a une maison, une petite maison d'un étage. Il fait froid et il y a du vent. On prend le chemin qui mène à la maison. Je dis que c'est presque au bout du monde. Devant la maison, les volets de bois sont fermés du côté de la porte. Mais l'ouverture du coin montre de la lumière. peu. Gêné de venir si tard, il se dit, qu'est-ce que je vais faire dehors ici ? Il frappe, pas de réponse. Encore une fois.
Qu'est-ce que c'est ?
Il dit, bonjour madame, je suis Julien XVI, un ami de votre fille Marie. La femme lui dit,
ma fille elle n'est pas là.
Il lui dit, je sais, tu viens justement pour. Elle lui dit,
elle est morte ?
Julien lui dit, je sais, je suis venu pour vous parler de quelque chose de très important. Ouvrez, je vous en prie, madame. La porte s'ouvre. Apparaît une vieille en guenilles, robe grise et pull noir, chaussettes et brodequins. Elle est petite, maigre, cheveux châtains. Elle lui dit,
c'est quoi ?
Il lui dit, c'est pour
une autorisation pour faire quelque chose sur le corps de votre fille,
dit Julien gêné. La femme lui dit,
elle a donné son corps à la science ?
Non, laissez-moi vous expliquer. Je vous en prie. Elle soupire.
Entrez.
Elle le laisse entrer. Il entre. Ça rentre directement dans un séjour où la salle cuisine. Avec coin cuisine, c'est-à-dire un évier, lumière sombre, lampadaire à franges, meubles vieux de campagne, sans âge, en bois, crasseux, une table au milieu de la pièce, deux bancs de bois. Le sol, c'est du parquet qui n'a jamais été ciré. Il a été toujours lavé à grande eau. Il y a une horloge qui ne marche pas. Elle lui dit,
asseyez-vous.
Il va s'asseoir à table. Lui, elle se met en face de lui.
Je vous écoute. Il lui dit,
le sujet de votre fille qui est décédée à cause d'une explosion de gaz. J'ai son ami. Elle lui dit,
ma fille, je l'ai perdue vue depuis longtemps. À l'âge de 2 ans, j'ai passé chez des paysans. Puis à 6, chez une tante qui est morte depuis. Elle habitait le Havre. La tante l'a fait aller à l'école. Moi, je ne pouvais pas m'occuper d'elle. J'étais sans rien. Son père, un marin, que j'ai vu qu'une fois. Je ne pouvais pas la garder. J'ai essayé, mais je ne pouvais pas. Je n'ai jamais eu la fibre maternelle, comme on dit. Mais maintenant, peut-être.
Il dit, c'est la misère.
Elle lui dit, ah, pour ça la misère, tu penses.
Julien lui dit, votre fille était une fille très bien, gentille, intelligente et très belle.
La mère lui dit, j'aurais dû la garder. Vous voulez boire quelque chose ?
Il lui dit, pas du vin, je viens d'en boire.
Elle lui dit, du cidre alors.
Il lui dit, oui, elle se lève.
Peut-être pas mangé.
Il lui dit, c'est vrai que j'ai pas mangé depuis cet après-midi.
Elle lui dit, je me préparer un repas.
Non, je vais pas vous déranger.
Mais ça ne me dérange pas du tout. Je viens de faire quelque chose pour moi. Allez. Et elle va dans son coin cuisine.
Une demi-heure plus tard, ils sont en train de manger une bonne soupe aux choux.
Il est venu vous demander une chose très délicate.
Je vous écoute, il lui dit.
Voilà, votre fille et moi étions très, disons, très bien. Nous vous voyons très souvent.
Elle lui dit, c'est normal, vous êtes jeune.
Elle lui dit, il lui dit, lorsque qu'elle a eu cet accident mortel, je l'ai prise et menée à un hôpital. Là, ils l'ont examinée, même en sachant qu'elle était décédée à cause des assurances et tout. Puis ils m'ont téléphoné pour me dire qu'elle était enceinte de quelques semaines. Or, j'ai eu l'idée, c'est de l'amener dans un service qui peut, disons, redonner vie au fœtus. Mais pour que cet enfant puisse vivre, malheureusement, si on veut que la chose se fasse, les médecins ne peuvent pas toucher le corps sans l'autorisation de la famille, et c'est vous. Je suis venu vous demander l'autorisation de prendre le fœtus qui est dans le ventre de votre fille.
Bien, il lui demande, ce n'est pas une blague?
Il lui dit, non, je vous en présenterai. Je ne plaisanterai pas avec la mère de mon ami.
Elle lui dit, et vous croyez qu'il peut faire revivre le fœtus, mais il a crevé en même temps que la mère?
Julien lui dit, certainement, mais il n'a pas brûlé puisqu'elle était, il était protégé dans son corps. Elle, elle a été brûlée à plusieurs endroits, mais pas au ventre.
Il lui dit, mais puisqu'il est mort,
il lui dit, oui, mais son ADN, non.
On peut peut-être revivifier son sang aussi et le remettre au stade où il était et le remettre en route, quoi.
Au moment, la mère est conservée au réfrigérateur. Elle ne peut pas se détériorer plus. Le fœtus, lui, non plus. Ils peuvent le décongeler et le revivifier avec des rayons intensifs du sang. On peut remplacer les cellules mortes par des cellules refaites en laboratoire avec sa peau, son ADN et le sang. Et en lui, la sensibilité nerveuse par un produit qui est sensible aux moindres réactions signes. Puis le cerveau, en grandissant, les parties nerveuses se videront aux autres et le produit des sensibilités disparaîtra parce qu'on n'aura plus besoin de lui. Il marchera avec les autres. Nous avons de la chance que le fœtus n'ait pas le cerveau fini d'être formé. Comme ça, en se développant, il se mariera aux parties remplacées.
La femme lui dit, c'est compliqué tout ça, j'y comprends rien du tout.
Il lui dit, ben moi non plus pas grand chose, hein. Je lui dis ça comme ça.
Fiance en la science.
Elle lui dit, ce serait plus simple si vous fassiez un autre enfant.
Il lui dit, malheureusement ce ne serait pas un enfant de mari.
Elle lui dit, vous êtes bien jeune.
Il lui dit, la nature ne m'a pas dit que je l'étais.
Elle réfléchit et lui dit,
bien. Je ne dis pas non. Peut-être si j'avais un enfant maintenant, je serais plus naturel, maternel, je veux dire, qu'avant.
Qu'est-ce qu'on fait?
Il lui dit,
pas grand-chose. Il vous suffit de signer un papier d'autorisation.
Ah, je croyais.
Il sort de sa poche un papier. Elle le prend et le lit.
Elle lui dit, une signature pour que cet enfant puisse vivre. Sa vie ne tient qu'à une signature. Peu de choses. Je vais signer.
Elle se lève de table, va au buffet, ouvre un tiroir, en sort un stylo, habille, met le papier sur le buffet et signe. Puis elle remet le stylo dans le tiroir. Et elle revient avec le papier.
Le temps lui dit. Si on m'avait dit que j'aurais pu être grand-mère, c'est moi la grand-mère qui donne vie à son petit-fils. J'aurais jamais cru ça.
Vous savez, il y a encore des choses plus étranges. Elle s'assoit et lui dit.
Ça suffit. Quel monde nous vivons, où des morts revivent.
Il lui dit, c'est pas fini. La science progresse de jour en jour. Le but, c'est l'immortalité.
Et il continue à manger. Il lui a demandé comment était sa fille, physiquement, où elle habitait, ce qu'elle faisait, lui qui il était. Il a répondu à toutes ses questions.
Puis, elle lui a dit, « Et votre famille, elle sait pour le petit ?»
Il est surpris et lui dit, « Oh, j'y ai pas pensé. »
Elle lui dit, « Il va falloir le leur dire. »
Il se demande comment il va leur expliquer tout ça à ses parents.
« Et le petit, comment il va s'en occuper ? Il connaît rien aux enfants.
Il y a peut-être la bonne Maria.
Mais comment il va le lui dire ?»
Il se dit, « Adieu ma vie de jeune homme !»
Elle le regarde bien, lui dit,
« Vous n'êtes pas bien, vous êtes tout pâle !»
Il lui dit, « C'est la responsabilité du père qui commence !»
Elle lui dit, « Ça va pas être facile !»
Ils ont fini de manger.
« Vous allez coucher où ?»
Il n'y a pas pensé.
« Je sais pas, il y a un hôtel ?»
Elle lui dit, « Vous n'y pensez pas, un pays comme celui-là ?»
Il ne dit rien. Elle lui dit, vous allez coucher ici, j'ai une troisième pièce. Vous allez préparer ça, venez.
Ils se lèvent tous deux, elle le mène à la pièce.
Entrez. C'est une ancienne buanderie. Il y a quelques cajots. Elle lui dit, on va mettre un matelas à terre. Avec des couvertures, pour une nuit c'est bien bon, à moins que vous vouliez coucher avec moi, non ? Ce serait un peu... Et si on fait un enfant, il sera le grand-père de votre fils.
Il vaut mieux pas.
Mais dommage, vous êtes un beau gosse.
Il lui dit, je veux en rester ici.
Mais il y a pire que moi, situation. Mais je préfère, c'est... Ouf, en rester où j'en suis. J'ai déjà assez de difficultés comme ça. Et il prépare le lit improvisé. Il tire un matelas qui était contre le mur, plein de poussière. Le met à terre. Couverture. Et voilà.
Puis, épuisé, il a décidé de se coucher. Elle demande, je vous réveille à quelle heure demain matin?
Il lui dit, c'est vrai. Il n'y a pas de car. J'ai un train à prendre. Le plus tôt que vous pourrez, il faut que je cherche un chauffeur.
À 7 heures,
il dit, je dois pouvoir aller. J'ai mon train à 10 heures.
Oui,
merci.
Il passe une nuit. Sans rêve.
il se réveille d'un coup, se demandant où il est. Puis, il s'en souvient. Regarde sa montre, il est 6h30. Attend avant de se lever. Puis, au bout d'un moment, sans faire de bruit, il s'habille. Et attend, assis sur le matelas. On frappe à la porte.
Entrez.
C'est elle qui entre.
Déjà levé?
Oui, elle lui dit.
Le petit déjeuner est prêt.
Et il la suit. Il va à table et elle lui sert son petit déjeuner. Il s'apprête à partir, elle lui dit
« Ça m'a fait des frais votre venue. »
Il comprend sur sa carte. Elle lui donne son écran, il marque un chiffre et le lui rend.
« Merci. »
Elle lui dit
« N'oubliez pas que c'est grâce à moi que vous avez le petit. »
Il lui dit « N'oublierai pas. » Elle lui dit
« Parce que je pourrais peut-être me rétracter.
Je penserai à vous. Au revoir et merci. » Et il sort de chez elle. Il s'en retourne au village.
Une fois arrivé au village, il rentre dans le café.
Avant, il demande « Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me mener à la gare, s'il vous plaît? Je paierai bien. »
Un vieux tout maigre et petit lui dit
« Tu es bien jeune, pour qu'on te croie. »
Julien rougit. Le vieux lui dit
« Je veux bien te mener à la gare. Je te fais confiance, mais ici les Parisiens, on n'aime pas bien. »
Julien lui demande « Mais qui vous dit que je suis Parisien ?»«
Rien. Ça se voit. Alors, les Parisiens, on n'aime pas bien. On aime bien qu'ils payent à l'avance. »
« Combien ?»
Le vieux lui dit « Le prix du quart. »
Julien le paye et même plus. Il est parti dans une vieille voiture jusqu'à la gare. Il arrive à la gare 1 heure d'avance. Le trajet en train se passe sans histoire.
Arrivé à Paris en soirée, il rentre chez lui et se couche de suite. Lendemain matin, il va à la clinique Genetoux-Pontoise et donne au médecin l'autorisation. Le reçoit dans son bureau, lui dit
« Il y a encore un hic, il nous faut une mère porteuse. »
Julien déçu lui dit « Vous ne pouvez pas faire ça en couveuse ?» Le médecin lui dit
« Nous ne pouvons pas, le fœtus est déjà dans un état pas très bon. Il faut qu'il retrouve son environnement normal. Il lui faut de suite une mère porteuse. Soit un père porteur alors. »
Julien ne se voit pas du tout en train de porter son enfant. Il lui demande « Où trouver une mère porteuse ?» Le médecin lui dit
« Je ne vois pas. Elle n'avait pas de parents, une sœur.
Non, juste une mère. » Il lui dit
« Une mère, ça pourrait aller. »
Julien hésite et lui dit « Grand-mère et mère ?»
Le médecin lui dit « Ça n'a plus aucun sens tout ça.
Bien, je vais voir. »
Et
il ne se sent pas le courage de retourner vers la mère et lui dire « Eh bien voilà, vous devez accoucher de votre petit-fils. »
Il décide, c'est de lui écrire.
Et puis en écrivant, on peut recommencer plusieurs fois la lettre. Donc il lui écrit, il lui demande une réponse rapide. Autrement, si elle refuse, il sera obligé de choisir une étrangère. Une semaine plus tard, elle lui répond, lui dit qu'elle est surprise et émue, qu'elle a calculé le pour et le contre, et qu'en fin de compte, elle ne dit pas non, mais que vu ses petits revenus, elle demande une pension, car une mère porteuse a des envies, mange beaucoup et des produits de qualité, et en plus, elle se déforme physiquement, elle aura aussi besoin de vêtements à payer. Puis après l'accouchement, le bébé qui va coûter, et elle, les soins après accouchement. Alors elle aimerait savoir une pension, surtout qu'elle ne pourra pas travailler pendant un certain temps. Donc il faudra bien qu'elle vive. Il est surpris par cette lettre. Aucune émotion ou question métaphysique, mais rien que des questions pratiques. Puis il se dit que c'est une femme pratique et qu'elle a raison. Elle a la tête sur les épaules. Elle saura prendre les responsabilités. Elle a raison. Elle aura besoin d'argent. Alors il lui écrit, il lui propose une pension le temps qu'il faut. Il s'est renseigné à la clinique par le médecin. C'est une très bonne somme qu'il lui donne. En plus, son séjour à Paris et le trajet sera gratuit. Elle accepte.
Julien le dit au médecin, qui lui dit « Nous allons décongeler la mère et lui enlever le fœtus. Lui aussi décongeler. Puis nous allons l'examiner et le préparer pour le mettre à la mère porteuse. » Le réactiver, etc.
Pendant ce temps, Julien prend son courage à deux mains. Il écrit à ses parents pour leur dire qu'il va être père et eux grands-parents. Que c'est la grand-mère de la mère qui va accoucher du petit. Et que c'est un petit-fils parce que la mère est morte d'une explosion de cancer. Avec le fœtus, que lui est mort.
Est-ce qu'il est heureux d'être père? Lorsque les parents reçoivent la lettre, ils ne comprennent rien à tout ça et se demandent si leur fils leur fait une farce. Pour être dans le ton et rire un peu, il leur écrit: c'est bien mon petit, tu as le fils de ta grand-mère qui est ton grand-père. Je me demande comment tu vas être ce petit et comment l'appeler. Julien, furieux de cette lettre, leur écrit Frédéric et rien d'autre.
Pendant ce temps, à la clinique, on s'affaire. On décongèle la mère, c'est-à-dire Marie, puis on lui enlève le fœtus. Lui aussi, on le décongèle. Puis, on l'examine. Il est mort. On lui éjecte du sang et de l'oxygène avec des rayons laser. On lui fait exciter les muscles. On lui prend de l'ADN, de la peau, de la mère, puis on ouvre le cerveau, on lui éjecte de l'oxygène, des coups de laser, on supprime la viande morte, on la remplace par de la peau de la mère avec l'ADN et on relie les autres parties avec les autres parties du cerveau. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.